Bonjour, frères et sœurs et YouTubers de la planète qui nous écoutez. Je vous remercie d'être là ce matin. Oui, un retour à l'Assemblée, seulement en captation, par contre. Il n'y a personne devant moi, malheureusement. L'avantage, c'est que ça offre une qualité de son, une qualité de présentation. Il y a certains désavantages, par contre, je suis obligé de mettre des pantalons pour vous parler ce matin. Mais voilà, c'est les choses qui arrivent. Ce matin, nous continuons notre série sur 1 Corinthiens, le combat de l'Église. Et le titre ce matin de la prédication sera « Une alliance à respecter ». Il est très important que nos décisions soient prises en étant convaincus par la parole de Dieu, surtout lorsqu'elles sont difficiles à prendre. Notre cœur, nos sentiments, nos peurs, le monde pourraient nous dire quoi faire, mais seul Dieu a le regard dans le futur lointain. Il y a seulement que lui qui sait où est-ce que l'on s'en va dans les jours qui suivent. J'aimerais qu'on commence, s'il vous plaît, par en lire la parole dans 1 Corinthiens au chapitre 7 et à partir du verset 10. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne répudie point sa femme. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, mais c'est moi qui dis, si un frère a une femme non-croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non-croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme, et la femme non-croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix, car que sais-tu, femme, si tu ne sauveras ton mari? Ou que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? Seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ainsi que je l'ordonne dans toutes les églises. Quelqu'un a-t-il été appelé étant circoncis, qu'il demeure circoncis. Quelqu'un a-t-il été appelé étant incirconcis, qu'il ne se fasse pas circoncire. La circoncision n'est rien, et l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. As-tu été appelé en étant esclave? Ne t'en inquiète pas. Mais si tu peux devenir libre, profites-en plutôt. Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Si vous avez été racheté à un grand prix, ne devenez pas esclave des hommes. Que chacun frère demeure devant Dieu dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Que le Seigneur bénisse sa parole. Excusez. Je mentionnais la semaine passée que ce qui ressort du chapitre 7, c'est principalement le contentement, être content de l'endroit où l'on est, être content de l'état où nous sommes. C'est encore présent dans le texte que nous verrons aujourd'hui. Dieu prend au sérieux l'engagement d'une personne, l'engagement qu'une personne peut prendre. Dieu prend très au sérieux ses engagements. Il demande ce sérieux-là dans les engagements, comme lui-même, il est très sérieux lorsqu'il s'engage. Il va même nous dire dans Ecclésiaste 5, versets 3 et 4, il va nous dire, « Lorsque tu fais un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœux que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Donc, respecter le vœu que l'on fait. On a parlé la semaine passée que le mariage est avant tout de se donner, un don de soi envers une autre personne. Et cet engagement-là est pour la vie, pour le meilleur et pour le pire. Pas pour le meilleur jusqu'au pire. C'est différent. C'est un engagement sacré dont Dieu est témoin. Le mariage n'est pas un contrat. Même si on dit un contrat de mariage, ce n'est pas un contrat. C'est plus qu'un contrat. C'est une alliance. Une alliance, c'est une alliance qui nous engage envers une autre personne. Et on a vu la semaine passée en quoi consistait l'engagement. Mais cette alliance à laquelle nous sommes redevables à Dieu, de respecter les termes de l'entente. Nous ne sommes pas redevables à notre époux ou à notre épouse, nous sommes redevables à Dieu. La redevabilité, c'est de répondre, de donner des réponses à Dieu face à notre engagement. Et Dieu va nous poser des questions face à cet engagement-là. C'est plus qu'un contrat. Si on peut briser un contrat, on ne peut pas briser une alliance. Ça veut dire que la personne mariée qui brise l'alliance, les responsabilités restent sur cette personne-là. Il y a des responsabilités qui sont là pour longtemps, pour toujours. Donc, Dieu va considérer les termes de l'alliance et il va pouvoir nous poser des questions sur cela. Comment ça va se faire, je ne peux pas le dire. J'ai aucune idée. Mais je sais qu'une alliance ne se brise pas. Dieu est contre le divorce. Il y a plusieurs raisons à cela, mais j'aimerais vous en mentionner deux. Le mariage est l'œuvre de Dieu. Chaque mariage, quelle que soit la nationalité d'une personne convertie ou non, le mariage est l'œuvre de Dieu. Et on ne détruit pas l'œuvre de Dieu. C'est bien les paroles de Jésus dans Matthieu 19, au verset 6, lorsqu'il dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Chaque mariage appartient à Dieu. C'est Dieu qui a créé cette alliance. Et c'est à partir de cette création-là que Dieu a créé le mariage. Et c'est encore valide aujourd'hui, en 2021. On ne détruit pas l'œuvre de Dieu. Et deuxièmement, que le divorce brise les dons, le don que nous avons fait à l'autre. Parce que lorsqu'on se marie, on se donne à l'autre. Et les dommages sont beaucoup plus grands que juste de reprendre sa vie. Il existe, dans la compréhension divine du mariage, nous prenons ce qui n'est plus à nous. Si je me suis donné à quelqu'un, je me suis donné à quelqu'un. Je ne peux pas reprendre, je l'ai donné. Les gens ne veulent pas voir les dommages collatéraux qui existent dans le divorce. Il y en existe et des énormes. Et Dieu n'aime pas ces dommages. Pour les gens de Corinthe, ça devait être une habitude de se séparer. Je lisais dans un autre texte, je lisais que les gens, à chaque année, nous, on change de calendrier. Les autres, ils changeaient de femme ou d'homme. C'était un rituel. Donc, les Corinthiens ont l'habitude de se séparer et ils le font allègrement. Mais les chrétiens de cette région se posent des questions. C'est bien de se poser des questions. C'est bien de poser des questions aussi. Et c'est ce que je vous rappelle que c'est ce que les Corinthiens ont fait vis-à-vis Paul. Ils devaient avoir posé cette question-là sans toutes les connaître. Est-ce que c'est normal de se séparer? Et le verset 10 est un ordre de Dieu qui devait bien nous faire comprendre que ce que Dieu recherche, ce n'est pas la séparation ni la répudiation, mais le pardon et la réconciliation. même si Jésus a enseigné dans Matthieu 19 que à cause de la dureté de votre cœur, en d'autres mots, à cause que vous n'êtes pas enclin à pardonner, il pouvait avoir possibilité de divorcer. Et la seule condition qui existe, dans la parole de Dieu, c'est l'infidélité. Mais pas obligatoirement. Ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas absolument nécessaire. Originalement, dans le mariage, Dieu n'a pas mis de clause parlant de divorce. Ce n'était pas dans ses plans. Voilà pourquoi il va dire, dans Matthieu 19, au verset 8, il va dire, « Au commencement, il n'en était pas ainsi. » Si cette dérogation a été mise, c'est à cause de la dureté du cœur des hommes. On parle homme et femme, là, de l'être humain, finalement. Dieu lui-même a donné l'exemple. Il n'a pas voulu briser son alliance avec Israël. Même devant l'infidélité de son peuple, il a pris une très belle image dans le prophète Osée. Lorsque Dieu a demandé à Osée de reprendre sa femme infidèle, Gomer, et il a dit, « Reprends-la, pardonne-lui et aime-la. » Je vous disais précédemment que le mariage n'est pas un contrat, que c'est une alliance, au même titre que l'alliance que Dieu a faite envers son peuple, et du même lien que cette nouvelle alliance que nous avons aujourd'hui dans laquelle nous vivons. Cette alliance confirmée par le sang de Christ qui ne sera jamais brisée. Impossible. Dieu ne brise jamais une alliance. Ni par Dieu, ni par nous. Le pardon et la réconciliation viennent en premier, avant le divorce. Certaines personnes vont faire une différence entre se séparer et divorcer. Je ne suis pas divorcé, je suis juste séparé. Et la Bible n'en fait pas de différence, elle. Le but est le même. Et c'est valide pour la séparation et c'est valide pour le divorce officiel devant le gouvernement. Je ne pourrai jamais empêcher quelqu'un qui a été trompé par son conjoint de divorcer. Mais à mon avis, c'est le dernier recours. Avant le divorce, il y a recherche de réconciliation. Pourquoi? Parce que je crois fermement que Dieu peut prendre deux cœurs brisés et qu'il peut les réparer, il peut les ressouder ensemble. À la condition que nous regardions à la sagesse de Dieu, qui est pure, pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, comme nous dit Jacques 3, 17. Votre homme serviteur a passé par ces étapes-là. Aujourd'hui, avec mon épouse, ça va super bien, mais j'ai passé une étape difficile. Nous aurions pu divorcer. Nous étions sur le point de le faire, mais Dieu a ramené mon couple. Dieu a fait en sorte que je suis encore marié à la plus excellente des femmes. Mais la femme qui décide de se séparer de son mari ou le mari qui décide de se séparer de sa femme manque ses grâces qui sont énumérées. Il manque énormément de choses. Donc, le pardon, la réconciliation avant le divorce. Dans les dispositions exprimées à partir du verset 12 et la suite, Paul affirme que c'est lui et non le Seigneur qui conseille. Mais ça ne diminue pas la validité des recommandations. Tout ce que Paul dit, c'est que Jésus ne s'est pas exprimé sur ces conditions-là du mariage. Et lui, il répondant aux questions des Corinthiens, s'appuie sur l'Esprit pour emmener un enseignement. Les recommandations de Paul ont une valeur biblique, ont une valeur certaine, ont la même valeur que si le Seigneur l'aurait dit. Première situation. La femme qui demeure avec son mari inconverti et ce mari est consentant de demeurer avec elle. Et c'est la même situation en inversant les rôles, le texte le dit. Le chrétien devrait rester avec son conjoint pour deux raisons. Premièrement, Dieu ne nous a pas appelés à sortir du monde, mais il nous a envoyés dans le monde pour montrer comment un enfant de Dieu est transformé par la parole. Nous sommes des ambassadeurs de paix et nous sommes avec le prince de paix. Et pour le montrer, nous devons être en compagnie de nos proches. Et je crois qu'il n'y a pas de meilleure manière de faire connaître Christ que de montrer qu'est-ce que Christ est en nous. Deuxièmement, les gens proches de nous, les gens autour de nous, sont mis à part du reste de la population. Et c'est de là le terme « sanctifié » qu'on a lu dans le texte. Ils sont mis à part. C'est un terme, et il y a une différence ici, là, entre être sanctifié par le salut ou être sanctifié, mis à part, pour recevoir un enseignement particulier au quotidien. La situation du chrétien, dans cette situation, est de l'évangélisation extrême. La soumission à Christ dans l'intimité du foyer parle fort. Cette manière d'évangéliser est particulière. Ce n'est pas juste 5 minutes sur le coin de la rue pour parler du salut, du ciel et du jugement. C'est vraiment toutes les minutes d'une vie qui manifestent la gloire de Dieu. Et la famille proche d'un enfant de Dieu reçoit un enseignement magistral sur ce que veut dire une vie consacrée à Dieu. Même une grand-maman ou un grand-papa est une influence dans une famille d'inconvertis. De là le mot « sanctifié ». Mais cette obéissance-là a un coût. Nous connaissons des gens qui vivent cela. Et ici, je mets dans le même panier les personnes qui ont pris une décision volontaire de marier une personne inconvertie et ceux qui ont donné leur vie à Christ en étant déjà mariés. Le fardeau est le même. Même si le moyen d'y arriver n'est pas le même, le fardeau est le même. Bien souvent, les chrétiens doivent marcher sur des œufs face à leur spiritualité, qui peut entraîner des désaccords sur la position d'un chrétien. Ces gens-là, bien souvent, pas toujours, mais bien souvent, ils n'ont pas l'entière liberté de s'exprimer sur les grâces que Dieu leur accorde. Ils n'ont pas la même vision. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. J'étais seul à la maison et mon épouse était partie pour quelques jours dans une conférence. Et j'ai reçu une lettre. C'était une nouvelle, une très bonne nouvelle, et qui semblait insignifiante pour le commun des mortels, mais c'était une réponse à ma prière. Je venais de recevoir une grâce de Dieu. Et mon épouse, je n'étais pas capable de rejoindre mon épouse, mais j'avais tellement le goût de le dire. Puis là, j'ai dit, je vais appeler mon beau-père. Je vais appeler mon... Il ne comprendra jamais ce que j'allais dire. Il va dire, ouais, c'est simple ce que tu as eu là, là. Non, c'est une grâce de Dieu. C'est une réponse que Dieu m'a donnée. Mais les personnes qui n'ont pas accepté le Seigneur ne comprennent pas toujours ce que l'on peut vivre. Ils doivent tenir compte du possible manque de compréhension du conjoint face au service dans l'Église. C'est quelque chose qu'ils ne vivent pas eux-mêmes. Les conflits que peuvent créer la position du chrétien face à une manière de fonctionner du monde comparativement à celle de Dieu. Réapprendre la vie de couple en mettant Dieu en premier sans négliger le ou la partenaire. Ce sont tous des fardeaux qui existent dans ce genre de couple, qui peuvent exister. J'oublie des situations que les gens peuvent vivre. Ce n'est pas mon cas, là. Je ne vis pas cela. Mais je sais que les gens vivent des choses. Mais Dieu connaît chaque détail de ce qu'ils peuvent vivre. Et il est gracieux et il donne, selon les besoins, les grâces nécessaires pour vivre tous les jours une vie pleine de lui, en toute situation. Les gens qui vivent cette situation ont besoin de nos prières. Ils ont besoin de vivre dans nos cœurs. Ils ont besoin d'être des évangiles vivants. Ils ont besoin que les conjoints ne soient pas un obstacle à leur vie en Dieu. Mais ils ont surtout besoin que les personnes, que les conjoints soient influencés par l'Esprit qui réside dans le chrétien. Et si vous avez des prières à faire pour eux, ce serait majeur pour eux que ça arrive. J'écrivais ces textes et je me suis arrêté et j'ai pensé aux gens que je connais qui vivent cela. Puis je dois vous dire que j'ai remercié Dieu de ce qu'ils vous donne le courage, de ce qu'ils vous donne le courage de résister aux pressions et de ne pas jeter la serviette. Je vous remercie, frères et sœurs, de l'exemple que vous nous donnez. Et c'est quelque chose qui est bon pour nous d'avoir ces exemples-là. Une autre situation qui, elle aussi, est en dehors de notre contrôle, c'est lorsque le conjoint inconverti ne peut faire aucun effort face à cette nouvelle vie et il désire tout simplement se séparer. C'est une situation crève-cœur. Personne ne veut avoir à choisir entre son époux, son épouse et Dieu. Il se peut que l'inconverti arrive à un ultimatum. C'est Dieu ou moi. On peut comprendre quel choix déchirant cela occasionne. Et il peut être difficile de voir le rationnel, de voir la meilleure décision, le meilleur choix. Je peux comprendre qu'une personne peut faire un mauvais choix, mais ça demeure un mauvais choix. Les sentiments amoureux de nos cœurs ou toute autre raison valable à leurs yeux rivalisent avec une vie donnée pour la gloire de Dieu. Et ça peut être déchirant. Parfois, les décisions que nous prenons nous semblent être la bonne, afin de ne pas heurter nos sentiments, ce que l'on vit. Mais ils font obstacle à la meilleure décision qui, elle, se vérifie dans le temps. On le sait depuis longtemps que le bon est le pire ennemi du meilleur. Jésus connaissait nos cœurs. Lorsqu'il a dit dans Luc 14, 26, « Si quelqu'un vient à moi et qu'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. » C'est quoi un disciple? Je pose la question comme ça. C'est quoi un disciple? C'est un croyant fidèle qui grandit dans sa foi. C'est ça, un disciple. Et parfois, grandir demande des sacrifices. Parfois, les chrétiens n'ont pas le choix. La personne qui veut partir, la personne ne veut que partir. Elle veut juste dire, peu importe ce qui va arriver, moi, c'est fini. La rupture n'est pas moins douloureuse. Mais ce qui est important, c'est notre nouveau statut d'ambassadeur de paix. C'est la vision principale que l'on doit avoir. Jacques 3, 18 nous dit que le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Et cette vision-là fait en sorte que nous allons prendre la bonne décision. D'après Paul, dans l'affirmation du verset 16, que je vais relire, « Car que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari? Ou que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? » L'attitude de l'enfant de Dieu, du verset 12 jusqu'au verset 15, est le chemin le plus certain qui mène au salut. Parfois, ça n'arrive pas là, malheureusement, mais c'est les plus grandes possibilités sont dans ce chemin-là, dans ces décisions-là. Dans les textes que nous avons vus, on peut comprendre que beaucoup d'insatisfaction, de mécontentement dans les pensées des gens de Corinthe. Du verset 1 jusqu'au verset 6, une mauvaise compréhension du mariage et du célibat. Des gens qui sont poussés à se marier, même s'ils ne sont pas appelés, au verset 8. Au verset 11, des femmes qui se séparent et des époux qui répudient leur épouse dans le but d'être plus spirituels. Au verset 12, des chrétiens qui ne sont pas prêts à vivre avec un inconverti par peur de la perte de sainteté. Au verset 15, des chrétiens qui se battent afin de garder leur couple coûte que coûte. Dieu veut nous dire dans ce texte que vivre dans le contentement de sa situation dans laquelle nous sommes placés est la chose à faire. Ça ne fait peut-être pas mon affaire, mais je vais être content de ce que Dieu me donne. Si on regarde la suite des versets, on dirait que par rapport au sujet traité du verset 17 jusqu'au verset 24, on dirait que ça ne fit pas, là. Il parle de circoncision, incirconcision, esclave. N'oublions pas que Paul répond aux questions des Corinthiens, premièrement. Mais aussi, Paul parle d'une certaine connotation sociale. Le mariage, le célibat, on parle de société. Et il veut aller plus loin. Il désire nous faire comprendre la vie sociale à travers cela. Et au verset 17, il nous dit que chacun marche selon la part qui lui a été donnée. Être content de ce que Dieu a prévu pour nous, marcher selon l'appel que nous avons reçu. C'est-à-dire que le chrétien soit célibataire, marié, marié à un inconverti, séparé d'un inconverti à cause de Christ. Le contentement devrait être la première recherche dans notre vie. Dans chaque situation mentionnée, il est possible de servir Dieu. Aucune des situations mentionnées n'est un empêchement à obéir à Dieu. Cet avertissement est valable pour toutes les églises. Paul, dirigé par l'Esprit, se sent obligé d'ajouter cette petite phrase. Il n'y a pas d'exception. Le concept est pour tous. Le concept est pour non seulement pour toutes les églises, mais pour toutes les nationalités et pour tous les rangs sociaux. Le même principe s'applique au niveau racial, dans le verset 18 et 19. Que la personne soit juive ou d'une autre nationalité, aucune nationalité n'est exclue de l'ordre d'obéir au commandement de Dieu. Que le chrétien soit sous un régime démocratique ou totalitaire, rien ne devrait l'empêcher de marcher selon l'appel qu'il a reçu. Lorsqu'on regarde certains pays, les gens qui s'affichent risquent leur vie. Ici, c'est facile. On pourrait aller prendre un tabouret, se mettre sur le coin de la rue, prêcher Christ, puis on n'aurait pas de danger. On passerait pour un illuminé, pour un fou peut-être, mais ce serait le maximum qu'il y aurait. On ne serait pas arrêté, pourvu que ce soit avant 8 heures. Mais certains pays, il n'y a pas d'heure. Tu ne peux pas le faire. Tu risques ta vie. Mais leur fidélité fait d'eux des serviteurs d'un grand Dieu. J'avais écrit au départ des héros, mais ce n'est pas des héros. Ce ne sont que des serviteurs d'un grand Dieu. On doit attribuer à Dieu le courage qu'ils ont. Parce que Dieu nous donne ce que nous avons besoin pour accomplir son œuvre. Je n'ai pas le courage d'un Nord-Coréen, mais eux, ils ont la volonté d'obéir. Et Dieu produit le vouloir et le faire, selon Philippiens 2. Au verset 12 de Philippiens 2, il nous dit, « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, et le verset qui suit, il nous dit, « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. » Donc, ce n'est pas le courage que nous avons besoin. Nous n'avons que la volonté d'obéir à Dieu. Voilà pourquoi on peut rencontrer des chrétiens sur toute la surface de la terre. Car à quelque part, des hommes et des femmes ont ce désir de vouloir obéir à Dieu. Dans toute contrée, même dans des contrées où ils haïssent ouvertement les chrétiens. Ces hommes et ces femmes qui risquent le bâton, qui risquent le feu, qui risquent la souffrance, qui risquent la mort, leur désir d'obéir à Dieu est encore plus important. Je me rappelle une histoire d'un missionnaire qui avait été au Liban, qui annonçait l'Évangile. Et à un moment donné, même c'est encore un peu comme ça aujourd'hui, mais au Liban, c'était très difficile de prêcher la parole. Et il retourne dans son église pour faire son rapport. Et il y a une femme qui lui demande, elle dit, c'est dangereux d'annoncer l'Évangile au Liban, c'est très dangereux. Et le missionnaire répondit, la chose la plus dangereuse, c'est de ne pas être à l'endroit où Dieu veut te voir. C'est très important, cette obéissance de vouloir, de ce désir de vouloir obéir. Et je dis ça parce que nous sommes exactement dans la même position que les gens, que les chrétiens de Corée du Nord ou d'Afghanistan ou de l'Arabie saoudite. Nous sommes dans la même position. Ce n'est pas du courage que nous avons besoin, mais nous avons besoin de cette volonté d'obéir à Dieu. Nous avons besoin de l'inclure dans notre prière. « Seigneur, je voudrais t'obéir. Montre-moi comment. » Parce que Dieu nous le dit. Au verset 19, la circoncision n'est rien et l'incirconcision n'est rien. Être juif ou être non-juif, c'est rien. Qu'est-ce qu'il est? L'observation des commandements de Dieu est tout. L'obéissance à Dieu est tout. Si notre nationalité n'a pas d'influence pour le service, notre rang social ne l'a pas plus. Dieu parle de celui qui est esclave. Aujourd'hui, l'esclave, le mot esclave n'existe plus, vraiment. Mais je ne serais pas surpris que dans certains milieux, des gens soient traités comme des esclaves sans avoir le nom. Mais qu'est-ce qui reste aujourd'hui? C'est les rangs sociaux. Peu importe le rang social, tous ceux qui sont appelés de Dieu sont affranchis, libérés. Ils ne sont plus esclaves des hommes. Je ne suis plus soumis au rythme du monde. Je ne suis plus obligé de suivre les convoitises de ce monde. J'ai été libéré de cela. Dieu m'en a libéré afin que je puisse offrir la meilleure voie à tous les rangs sociaux qui existent. Comme Paul l'a fait, lorsqu'il annonce l'Évangile au roi Agrippa dans Actes 26. Et Agrippa dit à Paul, « Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. » Mais Paul lui répondit, « Que ce soit bientôt ou que ce soit tard, plaise à Dieu. Mais que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, le roi, le gouverneur, leur épouse, les soldats qui accompagnent, les gens qui les traiteurs qui faisaient les banquets, les esclaves qui servaient le vin et qui faisaient toutes sortes de tâches. Et tout ce beau monde-là avait droit au salut. » Paul parlait à tous les rangs sociaux. Finalement, au verset 24, Dieu demande de ne pas chercher à être ce que nous ne sommes pas. Si je suis célibataire, mais même si c'est une situation temporaire, je dois l'être totalement pour Dieu. Si je suis marié, que je ne cherche pas un autre état civil, mais que je sois marié et que mon couple et même ma famille, nous servions Dieu. Je suis Canadien, citoyen de cette terre. Je dois aussi chercher à servir Dieu de la meilleure façon qui soit. Je suis aujourd'hui pasteur, mais j'ai été mécanicien, j'ai été un enseignant, j'ai été un gérant et j'ai fait d'autres choses. J'aurais pu être dans une classe sociale beaucoup plus élevée. J'aurais pu être dans une classe sociale beaucoup moins élevée. Ça n'a pas d'importance. Ça ne devrait pas affecter mon service pour Dieu. J'écoutais le témoignage d'un frère qui, à cause d'une situation économique désastreuse, est obligé de changer de métier. Il est devenu éboueur. Ça allait bien, il menait une vidange. Mais il avait terriblement honte de cette situation-là. Lorsqu'on lui demandait ce qu'il faisait, il marmonnait plus qu'il disait qu'il était éboueur. Il est obligé de le faire pendant quelques années. Mais justement, c'est cette situation-là qui lui a permis de se reconsacrer à Dieu. Dieu ne tient pas compte de notre rang social pour nous bénir. Je vais vous mentionner une justice de Dieu. La reine d'Angleterre, ou le petit monsieur qui n'est pas loin de chez nous, qui a juste un vélo et qui fait de poubelle en poubelle pour ramasser les cannes de liqueur, ces deux personnes-là ont besoin du sang de Christ, ont besoin de la même intervention divine dans leur vie pour être des affranchis du Seigneur. Quelle justice de Dieu! Wow! Quelle justice de Dieu que le monde ne reconnaît pas. Frères et sœurs, la vie que nous avons et l'état dans lequel nous sommes vient de Dieu. Glorifions-le. Glorifions l'état que nous sommes. Merci Seigneur d'avoir fait de moi un homme marié, d'avoir fait de moi un célibataire, d'avoir fait de moi quelqu'un qui est dans telle ou telle position. Glorifions le Seigneur de ce que je suis dans cet état-là et fais en sorte que je puisse te servir, que je puisse t'obéir. Donne-moi, Seigneur, cette volonté de t'obéir à l'endroit où je suis, dans l'état où je suis. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.